Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Table Ronde. Dans le cadre de notre émission d'aujourd'hui, on va en fait aborder ce qui se passe actuellement en Iran. Les Iraniens sont en train de célébrer la décade de l'aube qui marque la victoire l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979. Les Iraniens célèbrent de cette année le 41e anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979. En fait, c'est un moment très fort qui marque l'histoire de l'Iran, et ces quatre dernières décennies se sont caractérisées surtout par cette lutte des Iraniens face à l'arrogance mondiale. Et cette période s'est caractérisée surtout par la mise en échec de tous les complots de l'arrogance mondiale, très particulièrement en fait les États-Unis sur le plan régional, sur le plan interne, également sur le plan international. Pour vous en parler, on va partir tout de suite à Paris pour rejoindre un spécialiste français des questions internationales qui connaît très bien l'Iran, des questions relatives à l'Iran. C'est un très bon connaisseur de l'Iran, également des questions relatives à ce pays. Il s'agit de M. Pierre Dorsiguet. M. Dorsiguet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci, Monsieur Neurossi. Merci de cet honneur et mes salutations à tous vos auditeurs en ce grand jour.
Merci. Monsieur Dorsigui, en ce 41e anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979, des millions d'Iraniens atterrant dans les provinces, dans les villes, dans les villages, célèbrent cet événement, renouvellent leur allégeance avec les idéaux de la révolution islamique. Comment vous l'expliquez, monsieur Dortiguet?
Eh bien, ceci s'explique par le besoin, la nécessité que les Iraniens ont de se tenir unis derrière un idéal élevé pour pouvoir lutter contre des tentatives continuelles d'ingérence dans leurs affaires, et qui ne sont pas simplement celles de l'après-guerre avec les Américains, mais ce sont surtout avec la guerre de 1914-18, déjà avec l'Angleterre, la Russie, et puis ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Iran avait déclaré sa neutralité dans le conflit, l'Iran s'est vu occupé, une famine même a été organisée, vous savez, dans les années 1917, par l'occupation britannique. Un ouvrage là-dessus est paru aux États-Unis, écrit par un agronome iranien fort compétent. Et cette dure expérience de lutte pour sa survie fait que l'Iran a toujours cherché, aspiré à un régime fort, au-dessus de la justice et de l'injustice, dans un État, dans une vie individuelle, il y a la force de la volonté. Et les Iraniens sont redevables à la force de l'État issu de la révolution dont cette décade de l'homme dont vous parlez, la révolution de 79, ils sont redevables, disons, de cet axe qui les a maintenus à travers la tourmente. La tourmente était non seulement celle de l'intervention étrangère, qui était, vous savez, notée, les hommes les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, par la mauvaise expérience qu'avait eue le docteur Mossadegh, ce ministre, et qui avait tenté de nationaliser les pétroles, en luttant contre l'Angleterre, s'est appuyé sur Eisenhower, et finalement, ils avaient tout perdu, sauf l'honneur, si je puis dire. Eh bien, les Iraniens, que ce soit de toutes les couches de la population, ont compris que ce que l'on convoitait, c'était non seulement les richesses de l'Iran, mais ce que l'on voulait domestiquer et tenir prisonnier, c'était l'énergie iranienne, qui reposait bien sûr sur une longue suite de siècles, sur une floraison religieuse aussi, avec entre autres le chiisme et cette épopée qui accompagne le chiisme, toute cette grandeur qui avait séduit des gens chez nous, par exemple Goethe en Allemagne, qui avait beaucoup célébré vos poètes et autres, Comte Gobineau chez nous aussi, qui s'est illustré comme défenseur de l'Iran dans son Histoire des Perses. Eh bien, voyez-vous, cette volonté de se maintenir contre des gens qui voulaient faire du pays un protectorat, c'est-à-dire que tous ces événements que l'Iran a subis depuis, les deux guerres mondiales, ou entre les deux guerres mondiales, de ce qui ce sont des événements continuels, voyez-vous, c'est-à-dire que d'expérience de l'abaissement recherché par essentiellement deux grandes puissances que sont l'Angleterre et les États-Unis. Ce sont eux finalement qui ont voulu, vous savez, qui ont voulu abaisser le potentiel économique et humain de l'Iran. C'est cela justement qui fait qu'il y a une attitude contre l'Iran qui est inouïe, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu, par exemple, l'insolence de tel ou tel chef d'État étranger, par exemple, interdire à d'autres pays de commercer avec l'Iran, de développer l'industrie automobile, que ce soit chez nous, chez Peugeot ou autre, voyez-vous. Cette sorte d'arrogance dont on parle tant, elle se manifeste bien sûr envers d'autres pays, mais elle est inouïe contre l'Iran. Il faut donc en chercher la raison. La raison, elle est dans le potentiel du pays et dans la qualité, il faut le dire, la qualité de civilisation, etc., qui ne se prête pas à la corruption ordinaire. Il y a de la corruption partout, bien sûr, c'est humain. Mais il y a un Iran, je l'ai expérimenté plusieurs fois, dans la vie familiale, dans les relations. Il y a une certaine hauteur de vue, voyez-vous, qui fait que la culture peut se développer. Les résultats, je le dis à nos auditeurs, surtout européens, les résultats dans beaucoup de domaines, que ce soit les mathématiques, la physique, toute la technologie, sont des résultats qui sont extraordinaires souvent. Je me souviens même d'une émigrée iranienne qui avait obtenu la médaille Field des mathématiques aux États-Unis. Voyez-vous, eh bien, nous avons l'équivalent en Iran. Certains émigrent, bien sûr, mais les ressources de la population sont des ressources qui inquiètent justement ceux qu'on appelle ceux qui veulent être les maîtres du monde, voyez-vous. Et bien sûr, dans la civilisation iranienne, la civilisation religieuse, par exemple, cette volonté de tyranniser les peuples, de tyranniser l'homme, voyez-vous, eh bien, évidemment, est exaltée par le sacrifice de Hussein, bien sûr. Et je crois que cette volonté de se sacrifier pour un idéal est également à donner une qualité d'homme qui fait peur, voyez-vous, à ceux qui cherchent justement à diminuer la puissance des peuples. Malheureusement, nous, en Europe, nous avons beaucoup souffert de cette volonté d'hégémonie justement imposée à l'Iran qui se retourne contre nous. Des pays comme la France, comme l'Allemagne, comme la Belgique, j'ai encore eu des exemples, l'Italie souffre aussi de cette arrogance essentiellement anglo-américaine, israélienne si on peut dire, oui, parce que l'un suit l'autre, si je puis dire, fait partie du même groupe. Et c'est pour ça que les peuples, voyez-vous, et les chefs de peuple qui suivent souvent des directives étrangères, en réalité, ne sont pas persuadés de ce qui est dit contre l'Iran. Beaucoup chez nous d'ingénieurs, j'ai eu un camarade qui a travaillé juste après la révolution en Iran, qui était un grand ingénieur, et il m'a raconté qu'il était très étonné des réalisations qu'ils avaient pu faire. Et voyez-vous, nous espérons que l'Iran tiendra. Je voudrais conclure là-dessus. Tiendra non pas pour lui-même, mais tiendra pour nous autres en Europe, qui avons voulu toujours suivre, plus ou moins, mais suivre cependant constamment un chemin fondé sur la culture, sur la générosité, sur l'égalité, mais pas une égalité vulgaire, mais disons une égalité des talents, c'est-à-dire que nous estimons que nous devons traiter quelqu'un, non pas seulement d'après son argent, d'après sa fortune, mais également d'après, disons, son intelligence, d'après, disons, ce qu'il peut donner sur la manière dont il peut se sacrifier pour l'ensemble. Nous avons eu de grands exemples, et vous savez, une dernière chose, dans notre culture, qui était gréco-latine, je me souviens très jeune, quand j'avais 11 ans, 12 ans chez moi, je revenais en lisant les textes grecs, par exemple, sur la vie des Perses autrefois. Eh bien, c'était des textes qui étaient élogieux. Les Grecs avaient eu des auteurs, des disciples de Socrate, très élogieux envers la Perse. Et ce sentiment est resté chez nous, voyez-vous. Il n'y a pas... Alors, on dit souvent, c'est une manière, un régime clérical, etc. Mais non, ce n'est pas cela qui gêne les Américains. Les Américains ne sont pas, ou les Anglais, ou ceux qui les dirigent, ne sont pas gênés par la religion, non. Ils sont gênés par la volonté populaire. C'est ça. Alors, ils veulent détruire, caricaturer, voyez-vous, ce qui se passe en Iran, parce qu'ils veulent, disons, séparer l'Iran de la communauté des peuples. Ceci est impossible. Ça ne correspond pas du tout à la réalité humaine, ça ne correspond pas aux nécessités, Et ça ne correspond pas du tout aussi, il faut le dire, à la volonté suprême, bien sûr, de celui qui nous a créés pour une émulation, mais non pas du tout pour une sorte de tyrannisation réciproque.
Monsieur Tersiguier, vous l'avez fort bien dit, en fait. Il y a eu cette politique de vouloir, en fait, de mettre à genoux une nation, la nation iranienne, un pays, l'Iran, mais de sa part, fonctionner en dépit de cette politique de sanctions, de menaces, d'intimidation, des millions d'Iraniens célèbrent en fait l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979 en cette année qui marque le 41e anniversaire de la victoire de cette révolution. Vous l'avez dit, ce qui gêne M. Dortiguier, c'est cette volonté de résister, si vous voulez, cet esprit de résistance, cette volonté populaire. M. Dortiguier, alors peut-on dire que ce qui gêne, c'est le modèle iranien? Ils vont tout faire pour ne pas permettre. Je vous en prie.
Excusez-moi de vous interrompre, M. Nerossil, mais vous dites exactement le fond de notre pensée. C'est justement cette volonté de résistance qui ne doit pas faire tache d'huile dans le monde, vous comprenez? C'est cela qui gêne. Plus que, autant que l'Iran même, c'est le modèle qu'il offre aujourd'hui à tous les peuples. Et quand je parle de tous les peuples, je me permets d'insister, non pas que je sois seulement attaché à l'Europe, mais je trouve que les Européens eux-mêmes, voyez-vous, regardent au fond d'eux-mêmes. Beaucoup, je connais des ingénieurs, je connais des hommes politiques qui regardent en leur fort intérieur l'Iran comme, disons, un modèle de résistance contre un ennemi commun. Cet ennemi commun, c'est l'arrogance après les deux guerres mondiales. Bien, je ne reviens pas sur l'origine de ces deux guerres, mais disons, quand je vois l'autre jour, j'ai été interrogé à ce sujet par l'un de vos amis, quand on voit par exemple l'attitude récente du ministre des Affaires étrangères allemand, qui a dit que ce qui était fait contre l'Iran était inadmissible, qu'il ne fallait pas du tout s'acharner à des mesures, disons, qui sont absurdes, qui sont injustes. Tout ceci est dit par un homme d'un Sarrois, dont je connais un peu, peut-être la famille, enfin pas indirectement, et cet homme-là a exprimé tout haut ce que nous, les Européens, nous pensons tout bas. Mais voyez-vous, nous voyons l'Iran subir les mêmes vexations que nous subissons, d'une manière peut-être moins brutale, mais je dirais tout aussi profonde, voyez-vous. Tout ce qui a été dirigé économiquement contre l'Iran est en réalité dirigé contre l'Europe. Il existe un auteur belge que je connais fort, que j'ai beaucoup apprécié, qui est M. Soeckers, et qui a dit ceci dans trois livres qui touchent sur l'Europe, voyez-vous, qui touchent à l'Europe. Bien sûr, quand les Américains, certains secteurs américains, attaquent l'Iran, ils attaquent nos industries. Ils attaquent l'industrie allemande, ils attaquent l'industrie française. Ils attaquent également l'industrie, je répète encore, l'industrie belge, qui est très importante. Et nous savons bien qu'il s'agit que l'Iran fait partie, disons, du monde dans lequel, disons, les souffrances, disons, se ressemblent. Parce que les maîtres, ceux qui veulent être les maîtres du monde, et qui ne le seront pas, qui ne pourront pas maintenir cette forte ambition, ils veulent justement nous intimider. Je dis bien nous intimider. C'est pour ça que nous tenons l'Iran, non pas du tout comme on voudrait le faire croire dans une certaine presse, comme un pays étrange, mais comme un pays qui nous est véritablement fraternel, parce qu'il subit, il saigne, comme nous avons déjà saigné, et comme malheureusement, si la politique se poursuit, nous serons appelés aussi à saigner encore une fois.
Monsieur Tersiguier, la nation iranienne cristallise-t-elle bien cette fameuse phrase qui dit que voilà qu'il est impossible de pouvoir vaincre une nation bien déterminée, bien résolue à faire valoir ses droits et à aller de l'avant?
Oui, en effet. C'est-à-dire que tout ce qui est, disons, le défaut de la cuirasse, pour le dire ainsi, d'une nation, ce n'est pas la pauvreté, parce que la pauvreté est toujours relative, il y a toujours des ressources. C'est le défaut de volonté, le défaut d'être déterminé, disons dans le mot, le défaut du courage. Le courage, ça ne consiste pas à une ambition, ça consiste à se tenir ferme, voyez-vous, et à ne pas, disons, à refuser le suicide, exactement. C'est-à-dire à tenir bon. C'est ce qu'on appelle en latin résister. Bien. Eh bien, justement, l'Iran résiste. Il résiste uniquement, à mon avis, si on veut chercher le fond même, le ressort même de cette attitude, sur une base intellectuelle. Intellectuelle, c'est-à-dire sur une foi bien comprise, non pas une foi aveugle, comme on caricature l'islam, par exemple, avec les takfiristes et autres, mais c'est une foi éclairée, c'est sur une tradition qui n'est pas simplement, qui n'est pas superficielle, mais qui a été cultivée par des philosophes, par des poètes, par des hommes d'État, par des essayistes. Je dois dire que, je donne un exemple, il y a quelques années, je crois que c'est 3 ans, j'ai reçu une délégation ici avec des amis, délégation de gens des musées iraniens. Eh bien, j'ai été très, très heureux d'entendre parler de Romain Rolland, voyez-vous, de grands auteurs que nous avions. Et j'ai senti, disons, qu'il y avait cette aspiration à quelque chose de grand, voyez-vous, quelque chose de noble. Et ça, nous le sentons, je dois le dire, ce n'est pas vrai de tous les peuples. Nous sommes, vous savez, comme des enfants, nous ne sommes pas tous égaux, comme on veut nous le faire croire. Nous avons des qualités particulières, mais on ne peut pas être confondus les uns avec les autres. Je dois dire que l'Iran a une destinée, comme chaque peuple a une destinée. Quand on a une haute destinée, on souffre beaucoup plus que les autres, je peux le dire.
Vous voyez, Monsieur une dernière dame.
Je me permets de,
je vous en prie,
de terminer en disant que cette célébration de la révolution, c'est la célébration de ce qui tourne autour d'un axe. Le mot révolution en latin signifie tourner autour d'un axe. Comme un revolver, c'est un barillet qui tourne autour d'un canon. Eh bien, l'axe de l'Iran, c'est justement la conservation, comme vous venez de le dire, M. Norostine, de sa volonté propre. Il faut que l'Iran ait conscience que son premier interlocuteur, c'est lui-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait toujours devant lui, le sentiment du devoir envers lui-même. C'est un appel que j'adresse, bien sûr, aux jeunes générations que je connais en Iran. C'est-à-dire, ayez d'abord la fierté de votre pays, c'est-à-dire le souci de la conservation de vous-même. Ne vous vendez pas aux fantômes étrangers.
Merci infiniment, M. Dortiguet, d'avoir répondu à mes questions. C'était très gentil de votre part.
Je vous en prie, c'est avec grand plaisir, comme toujours, M. Norostine.
C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup.
Au revoir.
C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. On va se retrouver prochainement pour une autre émission table ronde et pour aborder un autre sujet d'actualité internationale.